France Info.
Bonsoir, le mouvement des Gilets jaunes toujours aussi populaire, mais les Français se disent de plus en plus inquiets. Selon notre sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, grand perdant après 3 semaines de conflit et avant un samedi que l'Élysée et la France entière redoutent, Emmanuel Macron, mais aussi la classe politique tout entière majoritairement désavouée. Les informés consacrent cette édition spéciale à cette enquête exclusive. Nous évoquerons largement le dispositif de sécurité qui se dessine notamment dans la capitale. Nous évaluerons l'impact des annonces faites hier soir sur l'opinion, l'annulation de la hausse de la taxe carbone, avec un double discours tenu au sommet du pouvoir, vous le verrez. Édouard Philippe, toujours premier de cordée, s'est expliqué devant le Sénat, alors qu'Emmanuel Macron observe toujours le silence. La colère populaire se concentre sur le président et l'Élysée. Comment renouer ce lien abîmé, voire rompu avec les Français? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Gaël Slimane.
Bonsoir.
Président et cofondateur d'Odoxa. Vous allez détailler avec nous cette enquête. Également invité, bonsoir à vous, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Et nos deux partenaires, les partenaires des Informés de France Info. Bonsoir, Sylvain Courage.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef à l'Obs. Et avec nous ce soir, bonsoir, Erwan Beneze.
Bonsoir.
Bienvenue, journaliste au Parisien en charge de l'énergie et de l'automobile. Je rappelle le titre de votre ouvrage, un nucléaire, une catastrophe française chez Fayard. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. 84% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes selon notre enquête Odoxa pour France Info Le Figaro, effectuée hier après-midi par Internet auprès d'un millier de Français. Juste avant donc l'annonce, coup de théâtre, souvenez-vous, venu de l'Élysée hier soir, peu avant 20h, celle de l'annulation pure et simple de la hausse des taxes sur les carburants et non plus la suspension, comme l'a défendu Édouard Philippe devant une Assemblée nationale invitée à voter sur une proposition devenue caduque. Bonsoir à vous et rebonsoir Gaël Slimane.
Bonsoir.
Je rappelle que vous avez piloté cette enquête. Gaël, la décision in fine d'Emmanuel Macron réclamée depuis des mois par les Gilets jaunes au travers des pétitions, puis sur les ronds-points dans toute la France, est-ce qu'elle va dans le sens de l'opinion ?
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'enquête, donc vous l'avez dit, je le rappelle, c'est très important. Nous avons interrogé les Français toute la journée d'hier. À un moment, vous l'avez rappelé, Jean-François, où on leur expliquait que, cette taxe, elle était suspendue, elle n'était pas complètement annulée.
Oui, nous avons tous été pris de court.
Et donc les personnes interrogées, la première question qu'on leur a posée, puisque ça fait très longtemps que les Français, pas seulement les Gilets jaunes, les Français dans les enquêtes réclamaient l'annulation pure et simple. On leur a demandé, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de cette décision de suspendre, ou est-ce qu'ils auraient préféré une annulation? Là, il n'y a pas photo, comme on dit. On est à 8 personnes sur 10 qui disaient que le compte n'y était pas, que c'était totalement insuffisant et que ce qu'annonçait Édouard Philippe était parfaitement inaudible. Il fallait complètement supprimer, annuler cette décision. C'était l'attente de tous les Français, globalement. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, ou une des raisons qui a contribué à cette dissension au sommet de l'État. Sauf que, Jean-François, oui, on ne peut pas comprendre la manière dont ça s'est déroulé, parce que ce qui aurait permis probablement d'éteindre immédiatement l'incendie, au moins dans l'opinion publique et probablement dans la rue, c'eût été d'avoir une réaction du président de la République, Emmanuel Macron lui-même, oui, qui disent très clairement aux Gilets jaunes et aux Français, écoutez, je portais cette décision, cette hausse des taxes, je pensais que c'était une bonne chose, mais face à la réprobation populaire, j'y renonce. Il ne l'a pas fait, et du coup, on ne peut pas être sûr que ça modifiera fondamentalement la donne.
Aujourd'hui,
Sophie de Menton, intervention, oui.
Est-ce que c'est pas finalement habile? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On se demande s'il a eu votre sondage. Peut-être que vous lui avez donné votre sondage.
Il y en avait d'autres précédemment qui montraient déjà qu'on avait pu faire.
Sur toute la journée. Mais donc, le Premier ministre s'est battu, parce qu'il s'est bien battu, il était déjà assez bon à l'Assemblée nationale. Et tout d'un coup, le président de la République annonce que c'est supprimé. Et est-ce que c'est pas une façon de dire, moi je suis président, je ne supporte plus, on taxe trop les Français, est-ce que c'est pas une façon Alors, est-ce que c'est pas politique ?
Sylvain Courage, vous y croyez, vous, à une sorte de stratégie pour essayer d'emporter l'opinion, l'adhésion du public, pendant que le Premier ministre fait le boulot, si je puis dire, à l'Assemblée nationale ?
Non, ça aurait été beaucoup plus clair de le jouer comme l'a décrit Gaël Slimane. C'est vrai que s'il veut apparaître comme le protecteur du peuple et entendre ce que le peuple a à lui dire, ben, il faut qu'il l'exprime. Là, on a quand même affaire à une communication pour le moins chaotique. On sait que la proposition de suspendre cette hausse des taxes était déjà dans le discours du président. Ouais. Elle a été retirée à la dernière minute, donc on voit qu'il y a une valse hésitation. Et c'est ça qui est regrettable, parce qu'il faut trancher, et un président est là pour trancher, et il aurait fallu qu'on voit cette décision se prendre de manière claire et nette.
Erwan Menezé, vous dites la même chose ce soir. Sophie de Menton a l'air de dire que c'était finalement peut-être assez habile de la part du chef de l'État.
Bon, c'est compliqué de le définir, mais au final, quelle qu'a été la stratégie en amont, ça donne plutôt effectivement une image d'improvisation au final qu'autre chose. On a l'impression que le gouvernement et le président Macron est en permanence sur la défensive et cherche à réagir en réaction et ne prend plus les devants. Il ne fait que réagir au fur et à mesure des événements. On est en décembre, on a l'impression que c'est presque aujourd'hui le calendrier de l'Avent des gilets jaunes. Tous les jours, on ouvre le petit
chocolat dedans,
et on a une nouvelle revendication qui surgit.
Gaël Slimane, dans vos enquêtes auprès de l'opinion, il y a ce sentiment que décrit Erwan Benezé, à savoir une sorte de, pardon pour l'expression, mais de navigation à vue.
Bah oui, et puis il y a ce sentiment-là, et ça vient heurter un des fondamentaux plutôt positif qu'avait conservé jusqu'alors Emmanuel Macron, qui, tout président des riches qu'il fut perçu, ces derniers mois, était encore perçu comme quelqu'un qui avait un cap, qui s'y tenait. Et puis, vous savez, pour éteindre un incendie, quand on dispose d'une grosse citerne d'eau et que l'incendie est très violent, ben on ne s'amuse pas à envoyer de petites giclées régulièrement en se disant « Ah tiens, les flammes continuent de brûler ». On envoie la sauce directement. Et là, il n'a pas su le faire. Et de ce point de vue-là, c'est une erreur. Alors, on ne sait pas, du coup. Dans l'enquête, on a une question importante qui est « Est-ce que les Français justifient la mobilisation ?» Il se trouve qu'on a posé la question avant l'annonce de l'annulation. Ouais. Donc, ça, ce que je dis maintenant n'est peut-être plus valable. Ce serait peut-être démenti si on faisait le sondage tout de suite. Mais avant l'annonce de l'annulation, on avait encore plus des trois quarts des Français qui nous disaient « La mobilisation, elle est justifiée. » Donc, ça veut dire qu'il faudra aller assez loin quand même pour arriver à calmer la colère qui gronde très fortement.
Allez, 20h10, vous allez avoir la parole, Sophie de Menton, rassurez-vous, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
17 lycées de l'Oise fermés demain et samedi. Décision de la préfecture face au débordement en marge du mouvement des lycéens. Un policier, roué de coups par exemple aujourd'hui à Beauvais. En tout, 300 établissements ont été bloqués ou perturbés aujourd'hui dans toute la France. À Paris et à Bordeaux, ce sont les musées qui resteront fermés toute la journée de samedi. Une dizaine dans la capitale. Le Louvre ou le Quai d'Orsay. Mesure de précaution face aux gilets jaunes qui prévoit une nouvelle journée d'action sur les Champs-Élysées. La plupart des commerces n'ouvriront pas. Demande de la préfecture après deux week-ends de violence et de casse. La Tour Eiffel sera elle aussi fermée au public toute la journée. Et puis, autre conséquence, plus de la moitié des matchs de Ligue 1 prévus ce week-end sont reportés. Un accord provisoire trouvé entre les membres de l'OPEP pour ralentir la production de pétrole. Les pays producteurs veulent faire monter les prix. Celui du baril a chuté de près d'un tiers ces deux derniers mois. La lotion anti-poux Prioderm ne sera plus vendue, décision des laboratoires Mylan, après un avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Un produit vendu sans ordonnance qui tue les poux par une action neurotoxique et qui peut donc être dangereux pour les enfants. 29-23, c'est le score des Françaises face au Danemark ce soir. C'est l'Euro de handball, troisième victoire de suite pour les Bleus.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons poursuivre l'analyse de cette enquête Odoxa pour France Info et Le Figaro avec une notion également d'inquiétude. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, je vous propose d'entendre ces témoignages après l'annonce du retrait par l'Élysée hier soir pour ces gilets jaunes. Eh bien, le compte n'y est pas.
2019, c'est un an et puis après on va payer quoi ? On va repayer la taxe plus les retards qu'il va nous remettre ? Non, c'est pas intéressant pour nous. Donc pour moi, c'est du vent.
C'est pas suffisant, les gens arrivent pas aux fins de mois, ils arrivent pas à vivre correctement. Mais moi, ça me touche beaucoup tout ça. Nous, on arrive un peu, mais c'est nos enfants. J'ai un fils qui a 50 ans, et je suis obligée de l'aider.
Sophie de Menton, l'émotion est intacte hein, sur ces barrages.
L'émotion est intacte, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que il y a un enchaînement, ça s'est cristallisé sur effectivement une taxe pour le déplacement est essentiel chez les gens en province, etc. Il y avait déjà eu le 80 à l'heure, qui a pas arrangé les choses. Hein. Et donc la bagnole, on n'y touche pas. Bon. D'une part, mais surtout, il est en train, et moi franchement, j'ai pitié aussi d'Emmanuel Macron parce que il est en train de payer, ça s'est cristallisé aussi sur sa personne, 30 ans d'incurie. La France ne fonctionne plus. On a des couches de technocratie partout dans les ministères, on a des taxes, on ne baisse pas les dépenses de l'État. Donc les Français qui ont été drogués aux aides veulent plus d'aides puisqu'ils paient. Donc c'est un cauchemar. Donc on leur donne plus d'aides, on promet et on taxe. C'est plus supportable. Et ce qui est terrible, c'est que je vois pas la solution. Parce que c'est bien gentil de redonner. Là, je voyais, j'étais au MEDEF aujourd'hui. C'est bien joli de redonner, de céder. Qu'est-ce que les patrons peuvent supporter? Est-ce qu'on supprime telle ou telle chose, etc.? C'est bien gentil, mais on revient en arrière et on ne fait pas la réforme fondamentale d'un système qui ne fonctionne pas. Les Français l'ont compris. Ils sont révoltés contre cette fièvre taxeuse.
Alors, Erwan Benezé, il ne fallait pas toucher la bagnole, comme le dit Sophie de Menton.
Ce qu'il y a avec la voiture, en fait, la voiture représente, il n'y a pas que ça d'ailleurs, on parlait de mon livre le nucléaire, la voiture représente ce qui a participé au rayonnement de la France. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué d'aller de l'avant et de changer d'industrie, de changer de modèle économique, de changer aussi de façon de vivre. Et la voiture fait partie de nos 50 dernières années, des 30 glorieuses. Et c'est effectivement compliqué de s'arracher à ces symboles d'une France un petit peu passé, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'avenir.
Sylvain Courage, on le voit bien, des annonces qui sont faites, qui sont égrenées. Tout à l'heure, Gaël Slimane parlait peut-être du choix qui aurait dû être fait, une sorte d'effet de souffle avec du très lourd, vous avez dit Gaël. On a l'impression que on a beau proposer quoi que ce soit, finalement, rien n'avance.
Le souci d'Emmanuel Macron,
ça ne marche plus.
C'était de ne pas céder. Alors évidemment, il était mal préparé pour faire des concessions.
Vous avez raison de le rappeler, oui.
Sa volonté, c'était surtout de se démarquer de son prédécesseur. Hein. Il a appris, peut-être pas assez d'ailleurs, dans le sillage de François Hollande. Et il a vu comment François Hollande, en renonçant, avait renoncé aux réformes. Donc lui, se présentant comme le super réformateur, ne pouvait pas céder. Et ce qui explique qu'effectivement, il manœuvre en recul et qu'il a perdu l'initiative et que l'initiative est passée dans le camp des Gilets jaunes qui sont insaisissables puisque il n'y a pas d'interlocuteur, donc la surenchère est toujours possible à un endroit ou à un autre, et donc il est complètement désorienté.
Oui, Erwan Benezé, peut-être encore un mot.
Il y a une toute petite chose, c'est que ce qui fait aussi que aujourd'hui la réponse au mouvement ne prend pas, c'est que ces réponses-là, elles sont conjoncturelles. Et elles sont pas structurelles. Et en fait, on se rend compte que les gilets jaunes, ils veulent pas une petite hausse, tout ça. Ils veulent des changements profonds, donc des changements structurels.
Ce que disait Sophie de Menton. Écoutez, Gaël Slimane, on va parler d'un aspect très intéressant de votre enquête sur l'inquiétude. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire entendre cette intervention du Premier ministre à propos de la colère. Vous savez que le Sénat a débattu à son tour aujourd'hui des propositions, donc les nouvelles du gouvernement pour tenter de mettre un terme à la crise. Édouard Philippe a évoqué cette colère qui gronde dans tout le pays.
Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons senti monter, année après année, élection après élection, qu'elle se formule parfois par des abstentions massives ou qu'elle se formule d'autres fois par des coups de semonce. Contrairement à quelques autres, je ne cherche pas à désigner les coupables de cette colère, mais je constate qu'elle vient de loin.
Gaël Slimane, c'est plus qu'un coup de semonce cette fois-ci, hein ?
C'est beaucoup plus qu'un coup de semonce, et il y a quand même dans ce qu'on appelle les éléments de langage du Premier ministre et du Président avant lui dans ses interventions, une propension, si vous voulez, à englober tous les prédécesseurs dans les critiques qui, pour le coup, dans ce qu'on entend, dans les enquêtes ou dans ce que disent les gens, les concernent eux. Donc quand ils disent, ce qui est vrai factuellement, que cette colère, elle monte depuis très longtemps, etc., c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, elle vise pas n'importe qui, elle vise pas les prédécesseurs, elle vise ce gouvernement et cet exécutif et sur un certain nombre de mesures. Maintenant, vous me parliez des inquiétudes. Notre sondage
c'est
comporte
l'autre versant de votre
notre
enquête,
sondage comporte ce qu'on appelle un crible d'images. On en faisait quelques-uns par le passé avec Le Parisien régulièrement, où on testait, on passait au crible tout un tas de sujets. Et là, on a testé différents qualificatifs sur les gilets jaunes et on se rend compte que ça a été repris dans votre bandeau. On voit que c'est un mouvement que les gens qualifient de populaire à 84%. Très positivement, ils disent ça lutte pour l'intérêt général, c'est solidaire, c'est courageux, pour plus des trois quarts des Français. Ouais. Mais en même temps, comme dirait l'autre, le mouvement, il est aussi désormais de plus en plus perçu comme étant violent et comme étant inquiétant. On a 59% des Français, plus 15 points en l'espace de 15 jours, qui nous dit ça commence à m'inquiéter tout ça. Donc à partir du moment où, même si ça a été mal fait, franchement, en termes de communication, à partir du moment où la principale mesure symbolique, qui était un petit peu le plus petit dénominateur commun de tous ces gilets jaunes, aux revendications éparses, ce plus petit dénominateur commun est retiré, c'est-à-dire cette hausse des taxes pour janvier, si j'étais gilet jaune, je pourrais peut-être me poser la question de l'intérêt de poursuivre un mouvement qui risque fort, si ça continue, d'être nettement moins soutenu dans l'opinion et de sortir en beauté parce que pour
rien, ou peu de choses.
Bah, déboucher sur rien. Vous avez quand même, au départ.
Une question, hein.
Non, mais. Une réponse. Vous aviez quand même, au départ, un mouvement qui s'est coagulé, construit autour d'une revendication forte, la bagnole si vous voulez, le prix de l'essence, la hausse des taxes, et ensuite on voit s'agréger tout un tas de choses. Mais c'est
mais
très disparate ces revendications.
Qu'est-ce que c'est un gilet jaune ? Moi j'aimerais savoir, parce que vous dites les gilets jaunes, qu'est-ce qu'un gilet jaune ? J'ai l'impression qu'il y a, c'est complètement disparate.
C'est
qu'est-ce qu'un gilet jaune ?
C'est quelqu'un qui se revendique comme tel aujourd'hui, et quand vous regardez ce que sont... C'est pour ça que je disais cela, le plus petit dénominateur commun. Si vous prenez tous les gilets jaunes de droite, d'extrême droite, de gauche, de nulle part, ce qui sont les plus nombreux probablement, et qu'on essaye de trouver un point commun dans ce qu'ils disent, c'est une dénonciation.
Une déception aussi peut-être.
Une déception, oui. Déception, dénonciation, président des riches, c'est pas pour nous. Et cette idée de la hausse des taxes sur les carburants. Et sinon, pour le reste, quand vous regardez les revendications... C'est parfois très étrange pour ne pas être plus cruel dans le qualificatif. Et puis surtout, c'est très disparate. Donc, il y a bien un tournant aujourd'hui dans l'opinion, un soutien toujours très fort à l'égard du mouvement. Mais attention, maintenant que la mesure centrale a été retirée,
peut-être
ce soutien peut peut-être se retourner.
Un début de basculement de l'opinion. 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
Près de 8 Français sur 10 ont une mauvaise opinion d'Edouard Philippe dans la gestion de la crise des Gilets jaunes. Résultat de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info, alors que le Premier ministre est sur le plateau du 20h de TF1 en ce moment. Il vient de dire qu'il n'y a aucune cacophonie sur la hausse des taxes des carburants, hausse qui est annulée. Le Premier ministre qui a aussi annoncé aujourd'hui face aux sénateurs des moyens exceptionnels en plus des 65 000 forces de sécurité déployées samedi dans tout le pays, jour où les Gilets jaunes prévoient de se mobiliser une nouvelle fois. Conséquence de cette journée d'action, une dizaine de musées resteront fermés samedi à Paris et à Bordeaux. La Tour Eiffel n'accueillera pas le public. Le parcours de la marche pour le climat est modifié. La préfecture de police demande aussi aux commerçants des Champs-Élysées de ne pas ouvrir toute la journée de samedi. Par précaution également, plus de la moitié des matchs de Ligue 1 prévus ce week-end sont reportés. Des lycées fermés demain et samedi dans l'Oise, 17 en tout. Décision du préfet face au débordement autour du mouvement des lycéens. 300 établissements bloqués et perturbés aujourd'hui dans toute la France. Et puis Amélie Mauresmo n'entraînera pas l'équipe de France de Coupe Davis. L'ancienne numéro 1 mondiale devait succéder à Yannick Noah. À la place, elle préfère devenir le coach de Lucas Pouille.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors le gouvernement redoute une très grande violence, ce sont les mots utilisés, avec un noyau dur de plusieurs milliers de personnes qui viendraient à Paris pour casser, pour tuer, a même communiqué l'Élysée dès hier soir. Comment y faire face? Le gouvernement va déployer des moyens exceptionnels, en plus des 65 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur le terrain dans toute la France. Le général Pierre de Villiers ne voit qu'une réponse possible, l'ancien chef d'état-major démissionnaire, je vous le rappelle, en juillet 2007, après un conflit ouvert avec Emmanuel Macron, était hier au micro d'Olivia Gesbert dans l'émission La Grande Table sur France Culture.
Chaque fois que le niveau de violence s'accroît, il faut augmenter le niveau de la force, car seule la force fait reculer la violence. Je l'ai mesuré, c'est l'ancien chef d'état-major qui vous parle, d'expérience. Il faut faire respecter la loi, ça c'est impératif, c'est ce qu'attendent les Français. En revanche, il faut rétablir le dialogue, la confiance. Et c'est la clé de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
Voilà donc la force d'un côté, mais le dialogue de l'autre, dit le général Pierre de Villiers. Sylvain Courage, ces craintes sont justifiées?
Elles sont justifiées parce qu'il y a eu quand même de la violence dans ce mouvement depuis le début. Je vous rappelle que la première journée, il y a quand même eu plus de 500 blessés, un mort, c'est quand même pas courant. Il y a une forme de violence dans la façon dont on bloque les ronds-points. Il y a une violence dans les intentions parce que depuis le début, il y a l'idée chez certains qu'on pourrait faire tomber le gouvernement par la rue, qu'on pourrait forcer Emmanuel Macron à la démission. Ça, c'est la violence affichée par le mouvement. Ensuite, évidemment, le gouvernement dramatise un peu les enjeux avant la manifestation, sans doute pour dissuader les manifestants. Oui. Qui n'ont pas envie de prendre des coups, et puis aussi, si jamais ça tourne mal, pour accuser par avance les Gilets jaunes d'être les fauteurs de troubles. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un déploiement de force, et je pense que la stratégie du général De Villiers va être suivie, c'est-à-dire qu'il s'agit de rétablir l'ordre, et le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes images que la semaine dernière.
Alors je précise, outre les 65 000 effectifs déployés dans toute la France, Édouard Philippe précise ce soir que plus de 89 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés samedi à Paris, non, seront mobilisés samedi dans 8 000 à Paris, je vous rassure, 8 000 forces de l'ordre dans Paris, mais en fait ce n'est plus 65, c'est 89 000 membres des forces de l'ordre en tout et pour tout, une douzaine de véhicules blindés à roues de la gendarmerie déployés également samedi à Paris, c'était ceux qui étaient déployés à Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs le Premier ministre qui dans un autre registre explique qu'il n'y a eu aucune cacophonie, hein, c'est ce qu'il dit du moins sur la hausse de la taxe carbone qui a été annulée. Erwan Beneze, ce déploiement de force vous semble raisonnable pour faire face à la menace qui se profile?
Je dis prudence. Quand j'entends le général De Villiers, effectivement, je comprends son point de vue. Et en même temps, il y a un côté œil pour œil, dent pour dent, qui pourrait encore alimenter l'escalade de la violence. D'autant que dans le sondage que vous avez présenté, il y a un élément qui a retenu mon attention. D'un côté, le mouvement est jugé efficace, hein, donc par les Français, à 54%. De l'autre, ils se disent inquiets, mais trouvent que le mouvement est violent. Et si on fait un raccourci peut-être osé et dangereux, qui est que pour que le mouvement soit efficace, pour que ils obtiennent des revendications, et donc il faut donc exprimer la violence. Oui. Si ce raccourci est fait, et si en face vous avez un gouvernement qui dit aujourd'hui, attention, on va plus laisser faire, ça sera pas les CRS qui temporisent, etc., on peut arriver à une escalade de la violence, à une situation qui peut être effectivement explosive.
Sophie de Menton.
Je pense qu'il y a un autre regard là-dessus. Moi, je pense que la violence, elle s'auto-alimente. Mmh. Je veux dire que vous avez aussi, il faut pas l'oublier, vous avez les jeunes, vous avez les lycées, vous avez les lieux pour l'instant qui sont à leur place, si je puis dire, qui n'ont pas vraiment, sont pas vraiment rentrés dans les manifestations. Moi, je pense que ça fait maintenant, ça monte cette mayonnaise. On est là, on est en barricade. Samedi, ça va être terrible. Je pense que vous savez, il y a l'autoréalisation des prédictions. Je trouve qu'on en fait beaucoup sur la violence et que c'est pas très bon. Je veux dire qu'il y a au contraire, des gens que ça peut exciter complètement. On va y aller, on va casser.
C'est une prophétie autoréalisatrice. Bah, qu'au fond, il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas.
C'est beaucoup dire, mais oui. je trouve que franchement, on fait monter la mayonnaise très fort sur la violence.
Gaëlle Slimane, sur cet aspect des choses, est-ce qu'il y a une convergence, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il concerne souvent des conflits sociaux encadrés par des syndicats, mais est-ce qu'il y a une convergence, je dirais, des exaspérations des Français?
Il y a en tout cas un risque de convergence des luttes, de coagulation, comme on dit. On a vu des ambulanciers, des lycéens, enfin, vous avez tout un tas de professions qui et de catégories de la population qui sont très mécontentes depuis quelque temps, sans aucun rapport avec parfois les revendications des Gilets jaunes, mais qui peuvent se mettre en marche, si j'ose dire, et ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Vous évoquiez les lycéens, c'est toujours très dangereux quand les lycéens sont dans la rue. Je rejoins ce que vous avez dit, sur notre sondage. On a effectivement, je ne l'avais pas souligné tout à l'heure, et c'est très important de le dire, une poussée du sentiment d'efficacité de ce mouvement, et en même temps, de plus en plus de gens qui le trouvent violent. Donc moi, ce que je décode aussi dans les messages du gouvernement, consistant à dire, on lâche du lest sur l'essentiel, on annule, et en même temps, on vous prévient, ça va cogner. Parce que c'est un petit peu ça, le message.
Allez, dans la deuxième demi-heure des informés de France Info, nous évoquerons le chef de l'État, mais aussi l'Élysée, pris pour cible. Nous essaierons de comprendre pourquoi. On se retrouve dans quelques minutes.
Ici, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte. D'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Pour de la pluie, demain il pleuvra sur le nord-ouest le matin, parfois de manière soutenue. Le vent s'en mêlera aussi avec des rafales jusqu'à 80 km à l'heure. Au nord de la Seine, quelques gouttes seront possibles. En allant vers le sud, ce sera sec, souvent bien nuageux, mais on aura de bons moments de soleil tout de même près des Pyrénées et de la Méditerranée aux Alpes. Il fera souvent 7 à 12 degrés, moins vers les Alpes et les Pyrénées, 3 degrés à Grenoble, 4 à Tarbes. L'après-midi, on retrouvera nos pluies de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre, le bassin parisien, le nord, la Bourgogne et la Lorraine. Elles gagneront aussi l'Auvergne, le Jura, l'Alsace avant la soirée. Le soleil résistera sur les Pyrénées et sur le quart sud-est. Et puis sur le nord-ouest, on aura droit à un ciel changeant avec des giboulées, du vent fort. Les températures iront de 10 à 18 degrés, 10 près de la Manche, 12 à Paris, Nantes, Besançon, 14 à Lyon et Bordeaux et 18 degrés à Perpignan ou Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Augustin Arrivé.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Édouard Philippe rejette toute cacophonie au sommet de l'État au sujet des taxes sur les carburants. Le Premier ministre aux 20h de TF1, il assure ne pas être inquiet pour la République, elle est solide selon lui, mais il dénonce des appels à la violence. Il annonce que des véhicules blindés, une douzaine de la gendarmerie seront déployés samedi dans Paris, 89 000 membres des forces de l'ordre dans toute la France. Les événements reportés et les lieux publics fermés se comptent par dizaines pour cette journée d'après-demain. 6 matchs de Ligue 1 de football, un festival électro, certains projets liés au Téléthon, des musées ou opéras bouclés, la Tour Eiffel barricadée. En revanche, la marche pour le climat à Paris est maintenue. Simplement, l'itinéraire s'éloignera des Champs-Élysées. Pauline Boyer est la porte-parole du mouvement Alternatiba, co-organisatrice du cortège. Il n'était pas question d'annuler ce rendez-vous.
On a, un service d'encadrement avec des bénévoles qui sont formés à faire appliquer les consignes de non-violence pour garantir la sécurité des manifestants. C'est extrêmement important pour nous de créer un espace où les gens vont pouvoir défiler dans un cadre non-violent. Il y a plein de revendications de la part des Gilets jaunes, mais qui se rejoignent. C'est le fait qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un système comme ça, dans un système qui crée des inégalités, dans un système où les gens perdent le sens de leur vie, dans un système où on crée des taxes qui ne sont pas justes, qui vont ne faire rien maintenant. Ça veut dire qu'on va être entraîné dans une spirale avec l'emballement climatique. En continuant comme ça, on dessine un monde qui ne sera plus vivable pour nos enfants, pour les collégiens, pour les lycéens qui vont à l'école en ce moment même.
Pauline Boyer qui donne donc rendez-vous à 14h samedi, place de la Nation à Paris pour cette marche pour le climat qui se dirigera vers République. Plus de 300 lycées perturbés ce jeudi. Là aussi un mouvement de protestation marqué par des violences, cortège contre Parcoursup, contre la réforme du bac aussi. Des policiers blessés, un proviseur touché à Toulouse, près de 150 interpellations rien qu'à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. La préfecture de l'Oise a décidé de la fermeture pour les deux prochains jours de 17 lycées du département. Joseph Joffo avait 87 ans. Un personnage important de la mémoire de la Shoah, d'après l'avocat Serge Klarsfeld. Il était l'auteur d'Un sac de billes, roman en partie autobiographique sur la fuite à travers la France occupée de deux enfants juifs. Mais la carrière de Joseph Joffo a commencé dans un tout autre domaine. Il a monté une douzaine de salons de coiffure dans Paris et fréquenté par les stars du cinéma et de la politique. Le handball avec le début du deuxième tour de l'Euro féminin. La France a battu le Danemark 29-23. Et puis Amélie Mauresmo n'entraînera finalement pas l'équipe de France de Coupe Davis de tennis. L'ancienne numéro 1 mondial préfère entraîner le seul Lucas Pouille. 20h33 sur France Info.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Gaël Slimane, président et cofondateur d'Odoxa, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, avec Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, et avec Erwan Benezé, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France, en charge de l'énergie et de l'automobile. Alors, dans ce conflit, cette crise des Gilets jaunes, eh bien, l'Élysée est nettement pris pour cible, comme l'a clairement exprimé d'ailleurs hier soir Éric Drouet sur le plateau de nos amis de BFM TV. Ce chauffeur routier de 33 ans qui est l'une des figures du mouvement et qui a dit vouloir rentrer dedans, dans le palais présidentiel. Nous allons y revenir dans un instant. Eh bien, l'Élysée donc est prise pour cible. Et il y a un autre personnage qui est intervenu aujourd'hui. Il appartient à la classe politique. C'est François Ruffin. Il était ce matin l'invité de France Info. François Ruffin, vous le savez, le député de la France insoumise de la Somme, qui est allé récemment devant l'Élysée, ceint de son écharpe tricolore, pour réclamer la démission d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il en a dit ce matin, c'était au micro de France Info.
Je ne vais pas prendre l'Élysée avec des pics et puis tout ça. Oui. D'abord, vous savez, je ne suis pas partisan des armes parce que ils sont nettement plus forts. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout ça. Donc je ne suis pas du tout partisan de ça. C'est pas comme ça que le conflit va se régler. Mais en revanche, quand on a un président de la République qui s'isole de cette manière-là, qui se met en marge de son peuple, il ne voit pas cette France périphérique. Il en est coupé.
Sylvain Courage, que dire de ces propos, de cette personnalité politique? Et je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit ce gilet jaune, ce porte-parole, ou du moins cette figure emblématique du mouvement hier soir. Sylvain Courage,
c'est à vous. Oui, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on allait voir des images. C'est un peu les deux extrêmes du mouvement. François Ruffin, c'est l'homme qui vient de la gauche, de la gauche, et qui essaye de garder le contact avec le peuple. Et dont il est engagé un peu dans une course avec Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que c'est un jeu dangereux, au fond?
Ils peuvent se tromper, parce que est-ce que ce mouvement est vraiment de gauche? C'est pas sûr. Il y a des revendications qui sont effectivement des revendications de pouvoir d'achat, de démocratie directe, qui peuvent ressembler, dans certains cas, au programme de la gauche, mais il y a aussi des leaders, il y a aussi des mots d'ordre qui sont très inquiétants et qui n'ont rien à voir avec la gauche. Donc c'est un des problèmes du mouvement. Et Éric Drouet, lui, quand même, il évoque quand même plutôt une personnalité qui cherche un peu l'insurrection, qui est sur des thèmes de droite, qui parle d'un homme fort, qui parle de l'armée. Quel point commun entre Ruffin et Drouet?
Des révolutionnaires.
Sophie Dimenton.
Je veux dire que c'est une façon de vouloir la révolution. Il n'y a qu'à regarder Mélenchon. C'est totalement lamentable. Je pense qu'il faut discréditer complètement ce type de propos. Et c'est vrai qu'il y a quelque part un avant-goût révolutionnaire aujourd'hui. Il faut s'en inquiéter et il faut arrêter ça tout de suite. C'est pas ce qu'on veut pour la France.
Gaël Slimane, sur la personnalité du chef de l'État qui est la cible, au fond, des gilets jaunes et de propos souvent assez désobligeant sur le terrain, que diriez-vous?
Je dirais que on a clairement un rejet de la personnalité d'Emmanuel Macron. On a réalisé un certain nombre d'enquêtes sur son image qui montrent que, comme souvent, même si ça a l'air paradoxal, ce qui fait votre succès quand vous n'êtes pas encore aux affaires, quand vous n'êtes pas encore président de la République, et en l'occurrence, c'était le parler vrai, les petites phrases d'Emmanuel Macron, on en a testé une demi-douzaine avant qu'il ne soit président. À chaque fois, ça scandalisait le microcosme politique, vous vous rappelez, sur les 35 heures, oui. Sur le t-shirt ou le costard, sur tous ces sujets-là. Et à chaque fois qu'on les testait, eh bien, il y avait une majorité de Français qui disaient, ben non, c'est du parler vrai, il a raison. Sauf que maintenant, il est président de la République. Et donc, toutes les petites phrases, et dont une des dernières a fait le plus de dégâts, qui était « si tu cherches du travail, t'as qu'à traverser la rue », toutes ces petites phrases ont fait un dégât considérable sur son image et sont venues se télescoper avec un fond qui est la perception du président des riches. Maintenant, ce qui est intéressant dans notre échange, c'est ce qu'on dit sur Ruffin, sur Mélenchon, sur finalement à qui profite le crime, qui profite politiquement de cette crise.
Est-ce que vous avez la réponse à cette question ?
Eh bien, on a la réponse très clairement, personne. C'est-à-dire que certes, le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont largement désavoués concernant leur attitude dans ce conflit des Gilets jaunes. Bon, mais ça ne doit pas rassurer les représentants de l'opposition, parce qu'on les a testés eux aussi, et ce n'est guère mieux. Vous avez Laurent Wauquiez, pour Laurent Wauquiez par exemple, 81% des personnes interrogées nous disent qu'ils ont une très mauvaise opinion de son attitude dans ce conflit des Gilets jaunes. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon qu'on évoquait il y a un instant, les trois quarts des Français ne sont pas satisfaits de sa position. Globalement, ils ont le sentiment d'une vieille classe politique qui essaye de récupérer la chose. Celle qui s'en sort le moins mal, c'est Marine Le Pen, mais on a quand même 7 Français sur 10 qui sont mécontents de son attitude dans ce conflit.
Vous dites qu'au fond, la classe politique, on y reviendra c'est tout un à l'heure à travers une
total.
Déclaration d'Olivier Faure, mais...
C'est un désaveu total de l'ensemble de la classe politique.
Cette classe politique, elle est désavouée de toute façon. Je veux dire qu'on sait très bien, dans vos sondages, que les Français n'ont plus confiance dans la politique. Et pardonnez-moi, ils ont confiance dans les patrons aujourd'hui. Beaucoup plus, la famille recourt, quand on voit les différentes études, les patrons qui étaient souvent détesté, l'entreprise a été revalorisée et pardonnez-moi aussi, c'est la presse et les politiques qui sont en bas de l'échelle sur le plan de la confiance.
Oui, Erwan Beneze, je voudrais qu'on revienne tout de même un instant, un temps sur ces messages qui circulent sur le net, ces appels au fond à attaquer, si je puis dire, l'Élysée. Qu'en est-il réellement ?
Alors, je pense d'abord ça s'inscrit dans un contexte plus global où ce qui symbolisait auparavant l'autorité, on se souvient dans nos campagnes, c'était l'instituteur, le maire, le curé, et donc aussi par extension le chef de l'État. Bah aujourd'hui, il y a un affaiblissement de ces symboles-là. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, vous le disiez, qui a construit sa campagne sur la notion de nouveau monde. Sauf que en construisant ça, le nouveau monde, il a aussi fait apparaître une nouvelle manière de voir la position présidentielle. Il a réduit la distance entre la fonction présidentielle et les citoyens.
On disait cela déjà sous Nicolas Sarkozy.
C'est ce que j'allais dire. Il s'est inscrit en cela dans les pas de Nicolas Sarkozy, de son casse-toi pauvre con, du Karcher, etc. Et puis surtout, ensuite, il y a une continuité avec la présidence normale de François Hollande.
Vous dites quoi, qu'il y a une forme de désacralisation de la fonction présidentielle.
Totalement.
Il y a forcément un retour de bâton quand ça va mal.
Il y a deux choses. C'est que, effectivement, quand la colère grogne, c'est plus facile de la cristalliser sur cette fonction présidentielle désacralisée. Et puis, la gouvernance verticale, elle se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que, à gouvernance verticale, dans l'autre sens, quand vous avez une colère qui monte, eh ben, elle monte aussi verticalement.
Mais dans le monde entier, c'est comme
Sophie
ça.
Sophie Menton.
Allez. Dans le monde entier, sauf la reine d'Angleterre.
Allez, nous allons revenir dans un instant sur la vision des Français aujourd'hui sur leur classe politique. On reparlera un petit peu des patrons avec vous, Sophie de Menton. Mais tout d'abord, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
89 000 membres des forces de l'ordre seront déployés dans toute la France samedi. 8 000 rien qu'à Paris. Une douzaine de véhicules blindés mobilisés aussi dans les rues de la capitale. Annonce signée ce soir Édouard Philippe sur le plateau du 20h de TF1. Alors que les Gilets jaunes prévoient une nouvelle journée d'action. Les musées de Paris et de Bordeaux resteront fermés. Les commerces des Champs-Élysées aussi à la demande de la préfecture. 300 lycées bloqués ou perturbés aujourd'hui dans toute la France et des affrontements avec les forces de l'ordre. Des arrestations à Saint-Étienne, à Mantes-la-Jolie, à Toulouse ou encore à Annecy. La préfecture de l'Oise prend ce soir les devants. Elle annonce que 17 lycées resteront fermés demain et samedi. 6 milliards de dollars de la part des Russes pour le Venezuela, annonce aujourd'hui du président Nicolas Maduro en visite à Moscou. Des investissements russes dans les secteurs pétroliers et miniers. alors que le Venezuela traverse une grave crise économique. Et puis la bourse en chute libre aujourd'hui dans le monde entier, de New York à Hong Kong, conséquence des tensions entre la Chine et les États-Unis. Une responsable de Huawei, le géant chinois des télécoms, a été arrêtée au Canada à la demande de Washington. Aucune explication donnée par les Américains. La Chine demande ce soir des comptes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Édouard Philippe, qui était donc Julie Smul, nous le rappelait à l'instant, l'invité de TF1, qui a dit aussi aucune cacophonie sur la hausse de la taxe carbone, qui a été surprise et annulée hier soir par le président de la République, et qui a dit autre chose aussi, il a assuré travailler en confiance avec le président, qu'on prenne que pour. Alors, on va continuer à évoquer le cas des politiques, les députés du Parti Socialiste, de la France Insoumise, du Parti Communiste Français, eh bien, vont déposer une motion de censure contre le gouvernement le 10 décembre prochain. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dès hier soir sur France Info, expliquait pourquoi ce dépôt de motion de censure.
Il y a un message à adresser à ce gouvernement et plus largement aux Français, leur dire qu'il y a un autre chemin possible, qu'il n'y a pas une seule solution, que ce n'est pas l'alternative qui nous est proposée. Au fond, le gouvernement nous a expliqué depuis longtemps que c'était ou lui ou le chaos. Aujourd'hui, on a et lui et le chaos. Moi, je souhaite au contraire qu'on puisse montrer, faire la démonstration qu'il y a d'autres politiques possibles, et notamment la justice, ce n'est pas un vœu pieux. La justice, c'est possible.
Sylvain Courage, une motion de censure de formation politique en pleine crise institutionnelle quasiment avec les Gilets jaunes. Est-ce que c'est un petit peu décalé ou pas selon vous ?
Oui, c'est un projet de motion de censure qui est déposé par le Parti communiste et la France insoumise et à laquelle le Parti socialiste, tout ce qu'il en reste, veut se joindre. Alors c'est une position d'Olivier Faure qui depuis le début essaye d'épouser le mouvement, hein, parce qu'il veut montrer qu'il y a quelque chose entre Macron et Mélenchon. Il essaye de bâtir une position. Il est peu connu, personne ne l'écoute, donc il essaye de se faire entendre. Mais du coup, effectivement, il fait des manœuvres qui sont un peu étranges parce que ce sont un peu des manœuvres d'appareil socialiste. C'est-à-dire c'est une logique interne au Parti socialiste. Et je pense que cette motion de censure est difficilement compréhensible par l'opinion. Voilà, mais pour Olivier Faure, c'est une manière d'essayer de resserrer les rangs, même s'il y a des dissensions. Ouais. Hein. Par exemple, Le Foll, l'ancien ministre hollandais, il n'est pas sur la même ligne que Olivier Faure sur le conflit des Gilets jaunes.
Alors c'est bien de le préciser, Gaël Sliman, ça ne va pas arranger les affaires des formations politiques. On rejoint ce que votre sondage tout à l'heure et ce que vous en disiez. Finalement, il y a un abîme entre le réel et la marche des formations
Un abîme, vous l'avez dit, quand on testait les différents protagonistes de ce conflit dans notre sondage, 7 Français sur 10 nous disent nous, on a une bonne opinion de l'attitude des Gilets jaunes, et pourtant, on l'a évoqué, il y a un certain nombre de dérives de violence, il y a un certain nombre de revendications, encore une fois, qui peuvent paraître iconoclastes, étranges, contradictoires, des injonctions paradoxales, plus de fonctionnaires, une baisse des impôts, et pourtant, il y a un soutien à ce mouvement qui vient de la base et il y a un rejet systématique de toute la classe politique. Ensuite, si on veut être un peu moins sévère, parce que je partage tout ce qu'a dit Sylvain Courage sur le dépôt de la motion de censure, le PS à la traîne, etc., il y a quand même quelque chose d'un petit peu rassurant en démocratie à ce que les Français, les citoyens, puissent se dire quand ils sont mécontents de l'exécutif, ce qui est toujours le cas pour tous les présidents depuis pratiquement toujours. Il y a quand même un certain soulagement à se dire qu'il existe autre chose, qu'il y a une autre voie. Le problème aujourd'hui, et c'est unique, ça n'était jamais arrivé, c'est qu'on a le rejet très important d'Emmanuel Macron, de sa politique, bon ça peut changer, mais parallèlement un rejet équivalent de toute autre alternative politique constituée. Et ça, moi je l'avais jamais observé, ça fait un quart de siècle que je suis des sondages, et j'en ai vu des plus anciens que moi de sondages, et quand on regarde les situations, eh bien à un moment donné, Sarkozy est impopulaire, mais vous avez une alternative à gauche, Chirac est impopulaire, mais il existe une alternative à gauche et à droite, Mitterrand pareil, là, rien du tout, pour le moment. Et donc tout ce qui permettra aux oppositions, qu'elles soient de droite, socialistes, que vous voulez, d'exister et de proposer des choses un minimum crédibles, sera quand même de nature à faire redégonfler un petit peu cette... à lâcher un peu de pression à cette cocotte minute sociale qui commence à devenir très, très dangereuse.
Alors, Erwan Beneze, sur ce que disait à l'instant sur TF1, tout à l'heure plutôt, le Premier ministre Édouard Philippe, quand il assure travailler en confiance avec le Président, ce n'est pas le spectacle auquel nous avons assisté ces derniers jours. On a une sensation plutôt de flottement entre les deux têtes de l'exécutif.
Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez les fameux corps intermédiaires qui avaient le sentiment d'être mis de côté, donc les partis politiques, mais aussi les syndicats, qui là tentent de jouer leur propre carte. Un jeu, à mon avis, très dangereux. De la part des partis politiques, la motion de censure qui serait déposée lundi, mais à mon avis, c'est conditionné aussi avec ce qui va se passer samedi, c'est le risque que ça jette de l'huile sur le feu. Et puis après, de la part des syndicats, on a quand même un petit peu l'impression qu'ils tirent tous la couverture vers eux et ils font enfin entendre leur voix, en tout cas pour eux, et ça leur donne le sentiment, ils recherchent par tous les moyens à exister, mais encore une fois, je pense que c'est un jeu dangereux.
Jeu dangereux, vous diriez aussi vous-même, Sophie de Menton, on a quand même l'impression que ça ne fonctionne pas complètement bien entre eux. Vous prétendiez tout à l'heure que c'était une superbe stratégie qui permettait de faire chavirer les cœurs, mais...
Écoutez, j'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que s'ils s'engueulent, ça doit être très dur, parce que la situation à affronter est effroyable. J'espère qu'ils s'entendent un peu et qu'ils sont un peu solidaires. Mais surtout, moi, je suis très étonnée. Alors, motion de censure, évidemment, la France entière s'en fiche, moi, la première. Ça n'a pas
ça
de sens,
rien, de toute façon.
Aucune importance. Mais en revanche, je suis étonnée que vous ne parliez pas du monde de l'entreprise. Ça existe. Et
alors,
les Gilets jaunes...
Non
mais en particulier les Gilets jaunes, il y en a qui voulaient ça pour aller bosser. Je veux dire que ils se déplacent pour aller bosser, que le pouvoir d'achat, ça passe par les entreprises, qu'il n'y a aucune crédibilité, on sait que l'État ne pourra jamais créer quelque chose d'efficace en matière de pouvoir d'achat, et que même les patrons sont mobilisés, et ils ont même des Gilets jaunes dans leurs entreprises quelquefois.
Ouais. Alors justement, le Premier ministre a semblé vouloir accéder à une de vos propositions. Il faut quand même le souligner et vous faire honneur ce soir. D'une prime exceptionnelle versée aux salariés. Racontez-nous.
Ne prenez pas l'air dégoûté comme ça. Nous avons effectivement proposé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire quelque chose de positif. Et effectivement, c'est émouvant. Je veux dire, il y a un manque de pouvoir d'achat. Nos salariés, des salariés qu'on paie au SMIC, oui. Des salariés qu'on paie plus que du SMIC, il y en a qui dorment dans des bagnoles. Enfin, ils sont taxés aussi. Quand on donne 150 euros à un salarié, il en a 90 dans sa poche et ça nous en a coûté 300 ou presque. Et donc, il y a un problème. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose déjà pour donner un signe, puisqu'il ne se passait rien. Et donc, les chefs d'entreprise m'ont dit, OK, on va donner une prime exceptionnelle, qui n'est pas une prime de Noël, qui est une prime exceptionnelle, mais nous voulons qu'il n'y ait pas de charge sociale sur cette prime.
Ça veut dire que ça ne passe pas par la case Bercy, cette affaire.
Ça ne passe pas par la case Bercy. Et Bercy, dans une première réaction, a trouvé scandaleux que ça ne passe pas par cette case et a dit « Mais comment ?» C'est quand même incroyable la réaction des services. Hein. Mais comment c'est de l'argent, vous tapez dans la dépense publique et vous privez, vous taxez les contribuables. Parce qu'ils pensaient que dès qu'il y a de l'argent, Bercy doit prélever sa dîme. Et ça, c'est un des problèmes français épouvantables.
Des problèmes français, ce sont des choses qu'on entend beaucoup sur les ronds-points.
Mais je suis peut-être gilet jaune par moment.
Allez, ça c'est une information ce soir, Sophie de Menton avec son gilet jaune. Erwan Beneze, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être?
Oui, je trouve intéressant ce que vous dites, Sophie de Menton, en parlant des entreprises. Il se trouve que cet après-midi, toute la journée aujourd'hui, j'étais en reportage en Moselle, près de Metz. J'étais au site PSA de l'usine La Trémerie, et qui est historiquement l'un des plus grands sites de production de moteurs diesel au monde. Et l'écho qui avait que fait le mouvement des Gilets jaunes là-bas est assez intéressant, parce que finalement vous avez ces salariés qui sont là et qui avec qui j'ai un petit peu discuté et puis avec la direction aussi et en fait c'est ils sont en train de devoir mobiliser un changement énorme par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ils construisaient des moteurs diesel, maintenant c'est l'électrique, etc. Et donc, ils exprimaient leur crainte vis-à-vis de ce monde qui change à une vitesse grand V. Et ils faisaient le parallèle avec les Gilets jaunes en disant, quelque part, c'est aussi l'expression d'une crainte de ce monde qui change et de nous laisser sur le côté ou mal accompagner par les gouvernements. Voilà, je trouvais que ce parallèle entre des salariés d'une entreprise et le mouvement des Gilets jaunes était assez intéressant.
Allez, 20h51 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
Des véhicules blindés dans les rues de Paris, samedi, 8000 forces de l'ordre mobilisées dans la capitale, chiffre dévoilé ce soir par Édouard Philippe. Le Premier ministre qui annonce aussi 89 000 policiers et gendarmes dans tout le pays. La France se prépare à l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes. La moitié des matchs de Ligue 1 et une centaine de matchs de rugby prévus ce week-end sont reportés. À Paris, les musées resteront fermés toute la journée de samedi. Sur les Champs-Élysées, la plupart des commerces n'ouvriront pas, demande de la préfecture après deux week-ends de violence et de casse. La Tour Eiffel sera, elle, également fermée au public toute la journée. Dans l'actualité aussi, les lycéens mobilisés encore aujourd'hui dans toute la France. 300 établissements bloqués ou perturbés, des débordements, des affrontements avec les forces de l'ordre à Saint-Étienne, à Grenoble, à Marseille ou à Lille. Conséquence, 17 lycées seront fermés demain et samedi dans l'Oise, décision du préfet. Près de 300 kilos de cocaïne saisis à bord d'un navire Go Fast lundi dernier à Saint-Martin dans les Antilles françaises. Valeur estimée plus de 24 millions d'euros. Troisième victoire de suite pour les Françaises à l'Euro de hand. Victoire 29-23 en fin d'après-midi face au Danemark. Et puis la Coupe du monde de biathlon avec le skieur français Martin Fourcade qui remporte l'épreuve individuelle. Aujourd'hui, c'est la toute première course individuelle de la saison.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous, Julie Smulle. Je vous propose d'écouter à présent le Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'est exprimé au journal de 20h de TF1 sur les mesures de sécurité qui seront déployées, notamment dans la capitale.
Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie, oui, qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, parce que nous avons...
Mais en ville, pratiquement jamais. Jamais depuis 2005.
Jamais depuis 2005. Parce que nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre. 8000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle, parce que nous ne voulons pas, encore une fois, que la République, les institutions, la sécurité collective soient mis en jeu.
Voilà, donc mobilisation plus forte des forces de l'ordre. Il n'y a pas que cela également. Maddy Scheurer, qui est la porte-parole de la gendarmerie nationale, qui était tout à l'heure sur France Info, a parlé également de troupes, si je puis dire, ou d'éléments beaucoup plus mobiles. Erwan Beneze, apparemment, après la catastrophe de samedi dernier, la doctrine a été revue. Hein.
Effectivement, jusqu'à samedi dernier, ensuite Édouard Philippe avait un petit peu exposé toute la stratégie qui avait été mise en place, notamment devant les députés de l'Assemblée nationale. Et il y avait vraiment, d'ailleurs on le voit, hein, c'était la volonté, c'était de ne pas embraser la capitale. Et donc vous aviez ces forces de l'ordre qui reculaient face à des manifestants qui les attaquaient. Et donc le mot d'ordre, c'était effectivement d'apaiser. Là, on a l'impression qu'il y a eu un basculement. Et que la stratégie qui va être mise en place va être complètement différente. Ça sera des groupes policiers bien plus mobiles, type BAC, et qui essaieront de circonscrire les groupes de manifestants violents pour pouvoir les neutraliser.
Sylvain Courage, sur cet aspect sécuritaire des choses, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental finalement entre les groupes qui veulent casser, si je puis dire, dans la capitale et ailleurs, qui au fond dialoguent à travers tous les réseaux sociaux connus aujourd'hui.
Bien sûr, c'est un mouvement qui a été conditionné par les moyens de communication, hein, puisqu'il s'est... Il s'est agrégé par le biais des réseaux sociaux. Et puis, toute la stratégie aussi et les mots d'ordre s'échangent sur ces messageries, de manière d'ailleurs parfois très discrète. Hein. Il y a des messageries cryptées. Donc, il y a des moyens de communication qui permettent aux manifestants d'anticiper finalement et de dépasser les forces de l'ordre, même si elles sont nombreuses, en s'éparpillant, en frappant là où on attend le moins. Et je pense que comme ils ont développé cette stratégie le week-end dernier, ils vont aller plus loin, donc on peut craindre effectivement quelque chose qui soit un peu affolant par le caractère mobile et très instable de la situation. Ce ne sera pas des fronts comme on a l'habitude.
Gaël Sliman, ce que nous décrivons à l'instant, est-ce que les Français, au travers de vos enquêtes, éprouvent, si je puis dire, un sentiment d'insécurité face à ce qui se produit aujourd'hui ?
Oui, dans le sondage passant au crible la question des Gilets jaunes, on voit monter l'inquiétude, la crainte de la violence. Et vous savez, c'était d'une certaine manière la double peine pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe que ces images de samedi dernier. C'est-à-dire que vous aviez à la fois des Français qui très majoritairement estimaient que tout ça c'était de leur faute à eux, l'exécutif, parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour dégonfler la colère, et en même temps qui reprochaient à l'exécutif de ne pas être capable de répondre de manière suffisamment forte à des casseurs, y compris parmi les gilets jaunes présents qui eux ne cassaient pas, ou parmi les sympathisants de ce mouvement. Il y a une véritable incompréhension à voir des gens jeter des cailloux, des pavés sur des CRS ou dégrader l'Arc de Triomphe. Personne en France, à part quelques éléments très minoritaires, ne soutient cela. Donc le message qu'envoie le Premier ministre est double. C'est on a lâché du lest, on vous prévient que ce sera dangereux, et il y aura une réaction très forte, oui. Ce dont je ne doute pas, samedi prochain, de la part des forces de police par rapport à ce qu'on avait pu voir lors des week-ends précédents.
Sophie de Monton, pour refermer ces informés, peut-être rappeler, il faudrait rappeler le message du général Pierre de Villiers sur France Culture qui parlait de l'utilisation d'une force accrue, mais aussi il prônait très fortement le dialogue, c'est quand même le cœur de peut-être du dénouement de cette crise.
Oui, je pense que aujourd'hui, avant cette journée de samedi, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que les gens attendent, il y a des séquences. Il y a une séquence violence annoncée. Elle a été annoncée, le Premier ministre en parle, comment on va lutter, etc. Donc on ne peut rien dire. Il faut que ça se soit réglé. Je pense que c'est l'état régalien là, qui est en jeu.
Et il faut ensuite, faire ça. Le temps du dialogue.
Et il faut faire très attention aussi parce que il y a aussi les casseurs qui mettent des gilets jaunes.
Merci à vous Sophie de Monton. Je rappelle que vous participez à Challenge, le magazine, et vous publiez un éditorial, je vous cite, hein, Gilets jaunes ou la France prise au piège d'un état dépassé. Avec vous Erwan Beneze, quelle est la une du Parisien demain? Il a oublié. Oh, je crois savoir de quoi ça parle à peu près, hein, j'imagine. Et avec vous, Sylvain Courage, la une de l'Obs.
La faute fiscale. On revient à l'origine fiscale de la crise et on examine comment on pourrait en sortir.
Allez, c'est la fin de ces informés de France Info. Merci à tous les quatre. Demain soir, l'émission vous sera présentée par mon ami Olivier Delagarde. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.